pasteur de l'église Rennes-Nord, une toute jeune église, surtout comparée à la vôtre. Mais nous commençons en tout cas à avoir des liens avec vous, semble-t-il, puisqu'il y a eu deux mariages cette année entre des membres de cette église et des membres de notre église. Et il y a eu des échanges, du coup, puisqu'on a, hérité de Timothée Solotsky et vous avez hérité de notre chère Jana. Je suis heureux de te voir aussi. Donc j'ai eu le privilège hier de venir en effet pour apporter un enseignement sur l'adoration, pas simplement sur l'aspect musique et chant, mais sur l'adoration au sens plus large et du coup qu'est-ce que cela implique pour les chants, pour la musique et notamment pour les cultes. Et j'aimerais donc ce matin juste reprendre quelques éléments que nous avons entendus hier, désolé pour les redites, pour ceux qui étaient là, mais nous allons approfondir un peu plus un de ces aspects. Et j'aimerais commencer par vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ce matin? Pourquoi vous vous êtes levé, comme lui l'a dit, pour venir ce matin? Et je suis certain que si je demandais des réponses à voix haute, on entendrait ce matin plusieurs différentes réponses. Alors, certainement, toutes assez plus ou moins justes. Mais la question qu'on pourrait se poser, mais si finalement nous venons tous avec des objectifs différents, comment pouvons-nous vivre ces moments en unité, en union, d'un commun accord et d'une même pensée? N'y a-t-il pas un but commun finalement à ce rassemblement? Et pour répondre à cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Et nous allons lire les versets 19 à 25. Hébreux 10, versets 19 à 25. Et je fais la lecture. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'auteur de cette lettre écrit à des chrétiens d'origine juive, des Hébreux, qui, semble-t-il, étaient tentés de renoncer à la foi, d'abandonner la foi, soit parce qu'ils étaient sous peut-être une persécution de d'autres juifs, et donc ils étaient tentés de retourner au judaïsme, soit simplement d'abandonner la foi à cause des difficultés de la vie et des tentations du monde. Et l'auteur donc va les exhorter à une vie plus proche de Dieu, mais aussi à une vie plus proche les uns des autres. Et dès le premier chapitre, pour cela, l'auteur expose la suprématie de Jésus-Christ. La suprématie de Jésus-Christ comme révélation par excellence. Suprématie de Jésus-Christ au-dessus des anges, au-dessus des prophètes, au-dessus de Moïse, au-dessus d'Abraham. Christ par-dessus tout. Et cette lettre, les amis, est une lettre dense, mais c'est une lettre magnifique qui nous enseigne sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai cru comprendre que vous alliez faire une série de prédication sur cette lettre, et je m'en réjouis en tout cas pour vous. Ensuite, dans les chapitres suivants, l'auteur démontre que Jésus-Christ est le prêtre, ou le grand prêtre, le prêtre souverain par excellence. Il est notre médiateur, on va le voir tout à l'heure. Et ici, à partir du verset 19 jusqu'à la fin de la lettre, en se basant sur ces vérités qu'il vient d'exposer et de développer, l'auteur montre en quoi la suprématie de Jésus-Christ nous pousse à persévérer dans la foi, et ce, malgré les épreuves. Pour tenir au milieu des épreuves. Et nous en avons, et nous serons de plus en plus exposés, soit non seulement au niveau personnel, mais certainement aussi au niveau collectif. Pour tenir au milieu des épreuves, l'auteur nous invite à nous approcher non seulement de Dieu, mais aussi à nous rapprocher les uns des autres. Donc je vais aborder ce texte sous l'angle de l'adoration, puisque c'était un peu la raison de ma venue ce week-end. Donc ce texte implique pour nous ce matin, et notamment pour les raisons pour lesquelles nous venons au culte. Nous vivons dans une société individualiste, où le chacun pour soi prime. Et en tant que chrétien, nous sommes bien plus influencés par cette mentalité que nous l'imaginons. Et nous abordons souvent les cultes, nous abordons même l'Église, avec cette mentalité individualiste. Et voilà pourquoi nous allons voir au travers de ce texte, mais aussi il y a d'autres textes dans la Bible que je citerai rapidement, pourquoi ces textes sont importants pour comprendre pourquoi nous sommes là ce matin. Et pourquoi nous avons urgemment, non seulement besoin de l'Église, mais nous avons besoin de nous retrouver dans la communion fraternelle et notamment dans les cultes le dimanche matin. Il y a une époque, ça fait le vieux qui parle, hein, mais il y a une époque, semble-t-il, où la discipline du culte était quelque chose d'acquis pour les chrétiens. Le dimanche, on va à l'église, point. C'était comme ça, il y avait une forme d'automatisme. Je crains malheureusement que de plus en plus, avec les nouvelles générations de chrétiens, c'est beaucoup moins acquis. On va au culte lorsqu'on n'a rien dans notre agenda le dimanche. Et malheureusement, nos agendas sont bien remplis. Nous avons beaucoup de sollicitations. Et nous allons voir ce matin que venir au culte nous permet de persévérer dans les épreuves et de tenir bon dans les épreuves. Et pour cela, voyons dans un premier temps les versets 19 à 21 qui nous montrent le privilège que nous avons, notre position en Jésus-Christ, la joie que nous avons de pouvoir nous approcher de lui. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Quelle belle déclaration! Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Dans le temple de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, il y avait une partie dans le temple, une partie qui était en forme de carré, qui était séparée du reste du temple par un rideau épais. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire ici, ou dans d'autres versions, le lieu très saint. Et c'est dans ce lieu que Dieu a choisi de manifester d'une façon particulière sa présence glorieuse. C'est là, en quelque sorte, qu'il symbolise, mais aussi d'une façon aussi matérielle, la réalité de sa présence au milieu de son peuple. Et personne ne pouvait entrer dans ce lieu, mis à part le grand prêtre, le souverain sacrificateur, et cela uniquement une fois par an. Très rapidement, parce que c'était terrifiant. Chers amis, il nous est impossible de nous tenir dans la présence de Dieu, tant que notre problème de péché que nous avons hérité de nos parents n'est pas réglé. Le Dieu très saint ne peut pas se tenir, avec le péché. Et la Bible nous enseigne que la condamnation du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, et on l'a entendu ce matin, c'est que Jésus est venu pour payer à notre place cette condamnation. Il a été fait péché à notre place. Il est mort, il est condamné à notre place. Et chers amis, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Voilà pourquoi il est dit ici que nous avons désormais un libre accès à la présence de Dieu, au trône de la grâce. Vous savez, ce lieu où seul le souverain sacrificateur pouvait se tenir, et ce une seule fois par an, nous avons, nous croyants de la nouvelle alliance, nous avons le privilège de nous tenir dans ce lieu, dans la présence de Dieu, au trône de sa grâce, 24 heures sur 24. Et comment cela nous a été obtenu, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce qui est dit ici, par le sang de Jésus. Là où dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il fallait tout ce système de temples et de sacrifices pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir s'en approcher, pour pouvoir l'adorer. Il fallait le temple, il fallait les sacrifices, il fallait les sacrificateurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que tout cela, toutes ces choses qui étaient nécessaires dans l'Ancienne Alliance, ont été accomplies par Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois le temple, il est à la fois le sacrificateur, le grand sacrificateur. Il est dit ici même qu'il est ce rideau qui a été déchiré, c'est son corps. Vous savez, au moment de sa mort, nous rapportent les évangiles, le rideau du temple s'est déchiré. Il est ce corps, ce rideau qui a été déchiré. Et il est bien sûr aussi le sacrifice par excellence. Donc tous ces éléments de l'Ancienne Alliance qui étaient nécessaires pour s'approcher de Dieu ont été accomplis par Jésus-Christ. Et ce, une fois pour toutes, c'est ce qui est dit un peu plus haut, je ne l'ai pas lu, au verset 12, où il est dit que « Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Parce que Christ a accompli tout cela, toutes les conditions nécessaires pour s'approcher de Dieu, voilà pourquoi l'auteur peut dire que nous avons désormais ce libre accès au sanctuaire. Christ a inauguré, dit l'auteur, cette route nouvelle et vivante. Il l'a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. C'est comme si, dit l'auteur, Christ a déroulé désormais un tapis rouge. C'est ça, une route nouvelle, une route vivante, un tapis rouge jusqu'au trône de la grâce. Mais un tapis rouge de son sang qui a été versé pour nous, si je me permets cette image. Plus besoin de temple, plus besoin de sacrifice, parce que nous avons un grand prêtre qui intercède pour nous et qui accomplit tout cela. Et en lui, en Jésus-Christ, nous retrouvons notre vocation d'adorateur. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour nous tenir dans sa présence. C'est notre raison d'être. Mais à cause de notre péché, à cause de notre rébellion, cela n'a pas été possible. Mais Dieu a tout accompli pour que cela redevienne possible en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'auteur nous invite au verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà de quelle manière nous pouvons désormais nous approcher de Dieu. Avec un cœur sincère. Pas un cœur double. Pas un cœur hypocrite. Pas un cœur qui cherche encore à se justifier. Mais un cœur qui reconnaît à la fois ses manquements, mais qui reconnaît aussi l'œuvre accomplie par Christ, qui n'a plus besoin, un cœur qui n'a plus besoin de se cacher, un cœur qui marche dans la lumière, avec une foi inébranlable, une foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Chers amis, c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi aussi que nous continuons à marcher de gloire en gloire. C'est par la foi que nous pouvons nous tenir devant Dieu encore ce matin. Le corps purifié d'une eau pure. Christ a accompli tout cela pour nous. Et c'est finalement triste de réaliser qu'avec le prix que Christ a payé pour nous, nous puissions négliger tellement cette possibilité, ce privilège que nous avons de nous approcher de Dieu. Finalement, nous sommes riches d'une richesse infinie, mais nous vivons pauvrement. Nous nous tenons souvent loin de Dieu. Approchons-nous donc. C'est une invitation, c'est même un commandement. Approche-toi. C'est une invitation à la fois individuelle et c'est une invitation aussi collective. Approchons-nous donc. Christ a non seulement ouvert le chemin d'accès, inauguré cette route nouvelle, mais il nous a aussi donné le pass VIP. Il nous a purifiés. Il nous a rendus aptes à nous tenir devant notre Dieu. Chers amis, la bonne nouvelle que nous annonce ce texte, c'est que tu peux te tenir dans la présence de Dieu. Tu peux l'adorer, tu peux le louer là où tu es, chaque jour de la semaine. En fait, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour adorer Dieu. Donc si dans la question que j'ai posée tout à l'heure, dans ta tête, ta réponse était ben, « je viens pour adorer », j'aimerais te dire « mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant ?» Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire, après ? Christ a payé le prix pour que tu puisses adorer Dieu 24 heures sur 24, pour que tu puisses le servir avec tout ton être, tout ce que tu es. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte ou une adoration raisonnable. Tout notre être, en tout temps, en Jésus-Christ, sert désormais à la gloire de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un lieu, nous n'avons pas besoin de rite pour nous approcher de Dieu, pour le louer. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre cette Samaritaine qui lui dit, mais vous vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, mais nos ancêtres nous disent que sur cette montagne, où, comment peut-on s'approcher de Dieu? Et la réponse de Jésus, c'est l'heure est venue. Et elle est déjà là, où ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux louer Dieu avec ta culture, avec tes sensibilités. Chez toi, tu peux mettre la musique, c'est cette louange que tu aimes bien. Tu peux lever la main, taper, danser. Approche-toi de Dieu. Loue-le. Voilà ce que nous dit l'auteur. Voilà notre privilège immense. Et pourtant, l'auteur continue par nous dire, par nous demander de nous rassembler. Et c'est la suite du texte. Pourquoi continuons-nous donc à nous rassembler. Si nous pouvons adorer Dieu avant de venir, et si nous pouvons continuer à le faire après. Quel est le but de nos rassemblements? Si ce n'est pas pour que j'adore Dieu. Je provoque un peu en disant ça. En fait, la réponse est dans le texte. L'auteur nous dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. En Jésus-Christ, les amis, nous avons une espérance vivante. Nous attendons ensemble ce jour où Jésus reviendra. Et il revient bientôt. Et où nous serons enfin dans sa parfaite présence. Sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux. C'est ça notre espérance. Et nous attendons ce jour. Mais nous vivons dans un monde qui, lui, n'a pas d'espérance. Voilà pourquoi nous pouvons aussi, même en tant que chrétiens, oublier notre espérance dans un monde qui n'a pas d'espérance. Nous sommes tentés d'oublier que nous sommes des résidents étrangers sur cette terre, en attendant notre patrie céleste. Et nous nous rassemblons pour proclamer cette espérance au monde, mais aussi pour nous proclamer cette espérance les uns aux autres. Voilà le but de nos rassemblements, les amis. Pour retenir fermement cette espérance. Chers amis, nos rassemblements hebdomadaires, nos cultes, ont donc une dimension eschatologique. Ça veut dire que ça pointe vers cette réalité qui vient bientôt. Par nos rassemblements, nous démontrons le plan glorieux de Dieu qui consiste à tout soumettre à Jésus-Christ, à tout soumettre aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce plan est en route, ce plan s'accomplit. Et la preuve que ce plan s'accomplit, c'est nous. Notre présence, nos rassemblements démontrent cette victoire acquise par Jésus-Christ à la croix. Il démontre cela au monde, mais il nous le rappelle aussi à nous-mêmes. Que Christ est en train de soumettre toutes choses, que Dieu est en train de soumettre toutes choses aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous témoignons de cette réalité ce matin, alors que nous nous rassemblons. Nos rassemblements, en quelque sorte, anticipent ce jour où toute nation, tous les peuples, toutes les langues seront rassemblées aux pieds de notre Seigneur. Et c'est ce que nous faisons ce matin, dans ce lieu. Nous anticipons. Nous sommes en quelque sorte ce matin un avant-goût de cette réalité. Une fenêtre ouverte sur cette réalité. Nous proclamons donc par nos rassemblements, cette espérance au monde qui ne connaît pas cette espérance. Mais nous proclamons aussi cette espérance les uns aux autres. Voilà pourquoi nous nous rassemblons le dimanche matin. Cela signifie aussi que nos rassemblements, nos cultes dimanche matin, est avant tout une activité collective. Nous ne sommes pas venus ce matin pour accomplir des actes, une somme d'actes individuels. Nous accomplissons des actes communs. Nous ne venons pas ce matin à titre individuel. Nous formons ensemble ce matin une entité, un corps. C'est en tant qu'Église que nous nous mettons aux pieds de notre Seigneur. Voilà pourquoi j'aime rappeler que ce qui devrait prévaloir dans nos rassemblements, c'est le « nous » et non le « je ». C'est ensemble que nous nous approchons de Dieu à chaque fois que nous nous rassemblons. Voilà donc l'une des premières raison de nos rassemblements qui nous est donnée ici. Mais il y a une deuxième raison qui nous est donnée ici, c'est la suite du texte. Veillons les uns sur les autres en nous encourageant à l'amour et aux œuvres bonnes. Nous venons au culte dans le but aussi de nous encourager mutuellement. De veiller les uns sur les autres. Ce mot veiller est un mot fort. Ce mot, partout où on retrouve les traductions de ce verbe veiller, il y a toujours l'idée d'étudier, de scruter, de considérer, de discerner. Dieu, quelque part, ici, nous invite à réfléchir, à discerner, à étudier de quelle manière nous allons stimuler les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc quand tu te lèves le dimanche matin pour venir au culte, tu dois te dire de quelle manière je veux encourager l'autre à l'amour et aux bonnes œuvres. Et l'un de ces moyens, c'est le rassemblement. Souvent, on utilise ce verset « N'abandonnons pas nos assemblées ou notre assemblée » pour dire qu'il faut être fidèle à son église et qu'il faut être assidu au culte. Et c'est juste. Mais regardez le texte. En fait, le texte va plus loin que ça, les amis. Parce que l'auteur ne dit pas « N'abandonnons pas notre assemblée, mais venons à nos réunions. » Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit « N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous. » Vous voyez ce qu'il veut dire ? Je fais exprès encore de provoquer un peu. Ça veut dire que tu peux, au fait, assister aux réunions, venir au culte, mais si tu le fais juste pour ta propre pomme, pour tes propres intérêts, tu es en train d'abandonner l'assemblée. Parce que ne pas abandonner l'assemblée, c'est s'encourager mutuellement. Donc, nous venons au culte parce que nous avons besoin de nous encourager mutuellement. Alors on peut se poser la question, comment ça se passe finalement ? Parce que finalement dans le culte, je n'ai pas forcément le temps de parler à mon frère, ma sœur, ou j'ai juste le temps de parler à la sortie du culte. En fait, il faut qu'on croie déjà. Il faut qu'on exerce la foi. Il faut que nous croyions que c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous encourager, pour nous garder. Vous savez, l'enjeu qui est donné ici, et qui est dit juste à la fin de mon passage que j'ai lu tout à l'heure, et ce d'autant plus que le jour est proche. Et quand l'auteur dit ça, c'est qu'il y a un danger. Le jour vient, Jésus revient bientôt. Alors n'abandonne pas ton assemblée. Mais encourageons-nous. Nos cultes, ce que nous faisons ce matin, nos chants sont des moyens d'encouragement mutuel. L'Église se rassemble pour accomplir une œuvre, s'encourager, s'exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que le jour s'approche, ce jour étant le retour du Christ et le jugement. En fait, nous sommes des êtres profondément oublieux. Nous sommes des êtres oublieux et la Bible, Dieu le sait, et la Bible nous exhorte maintes fois à ne pas oublier. Dès le départ, dans Deutéronome 4, lorsque Dieu a fait alliance avec son peuple, voici ce qu'il dit, Deutéronome 4, verset 23, « Veillez, tiens, on retrouve la même expression, « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous » et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Et un peu plus loin, chapitre 6, verset 12, « Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Lorsque Dieu a fait alliance avec son peuple, il sait que la tentation de ce peuple sera d'oublier cette alliance. Chers amis, si Dieu sait que tu vas te tenter d'oublier, Ne te surestime pas en pensant que tu n'oublieras pas. Et parce que Dieu sait que nous sommes tentés d'oublier, il a mis en œuvre des moyens pour nous rappeler son alliance. L'un de ces moyens, c'est ce qu'on a pris tout à l'heure. La Sainte Cène. Nous prenons la Sainte Cène régulièrement. Pourquoi ? Pour nous souvenir, pour nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Pourquoi ? Parce que nous oublions. Nous oublions, les amis. Nous vivons dans un monde, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas d'espérance. Nous vivons dans un monde qui a oublié son Créateur. Et parce que ce monde a oublié son Créateur, il s'est tourné vers la créature, vers les idoles. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. À chaque fois qu'Israël a oublié son alliance, il s'est tourné vers les idoles. Et nous, à chaque fois que nous oublions la réalité de notre appartenance à notre Dieu, nous nous tournons vers les idoles. Et les idoles sont nombreuses dans ce monde. L'idole de l'apparence de soi, l'idole de l'approbation, l'idole de l'argent, l'idole de la réussite. Nous sommes entourés de toutes ces idoles, alors ne te surestime pas. Ne te dis pas, non mais jamais, moi. Dieu te dit, si, toi. Alors n'oublie pas. Nous abattons les idoles de notre vie et puis aussitôt, nous en rebâtissons d'autres. Voilà dans quoi nous vivons. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces moyens de souvenir. Notre seul espoir, les amis, c'est de nous souvenir de l'Évangile, de nous rappeler qui nous sommes et de répéter sans cesse dans nos rassemblements l'histoire de la rédemption qui nous a arrachés des ténèbres à la lumière. J'ai rappelé hier qu'un auteur, Brian Chappell, qui avait étudié les liturgies des traditions chrétiennes de différentes dénominations, que ce soit les catholiques, les luthériens, les réformés, les anglicans, etc. Et il a étudié les liturgies. Ce qu'on appelle liturgie, c'est le déroulement des rassemblements, des cultes. Et il a trouvé quelque chose de commun à toutes ces liturgies. C'est que toutes ces liturgies rejouent en quelque sorte l'histoire de la rédemption. Toutes ces liturgies racontent, comme dans un théâtre, l'Évangile. Intéressant. Et on a aussi dans la Bible des textes qui, quelque part, illustrent ces liturgies. Ésaïe 6 est un texte à propos. Je ne sais pas si certains peut-être connaissent ce texte, mais c'est un texte où le prophète Ésaïe reçoit une vision de Dieu. Cela commence par ce temple glorieux, cette fumée, ces anges qui tournent, qui proclament la sainteté de Dieu. Dieu se révèle. Et l'histoire de la rédemption commence par Dieu qui se révèle à nous. Et ensuite, Ésaïe qui dit « Malheur à moi !» Il reconnaît son péché. Et dans cette liturgie, on a ces temps de confession. Et ensuite, il y a l'ange qui vient purifier les lèvres d'Ésaïe. Et dans la liturgie, on a ces temps d'assurance, de promesse. Et enfin, il y a l'envoi. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Chers amis, tous les textes du Nouveau Testament qui parlent de nos rassemblements, on peut peut-être citer ici deux textes assez parallèles. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Nous avons besoin que la parole de Christ demeure parmi nous dans toute sa richesse. Voilà pourquoi le texte continue. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur. J'aimerais conclure. Ce texte nous lance deux invitations. Une invitation à la fois individuelle et collective. Une invitation à se rapprocher de Dieu, mais aussi à nous rapprocher les uns des autres. Et à le faire, ce d'autant plus que le jour s'approche. Ne sous-estimons pas, nos amis, nos tentations, nos velléités à nous éloigner de Dieu, à oublier Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées, nos réunions. Ne négligeons pas les cultes. C'est un moyen de grâce. Oui, Dieu a promis de nous garder jusqu'au bout. Nous avons cette assurance du salut. Mais nous n'avons pas réfléchi par quels moyens Dieu a choisi de nous garder. Nous sommes bien heureux que Dieu nous garde. Mais nous ne saisissons pas les moyens qu'il a mis en œuvre pour nous garder. Et parmi ces moyens, il y a les rassemblements du dimanche. Il y a les cultes. Et j'aimerais aussi juste finir par une exhortation pratique. Puisque nous sommes venus pour nous encourager mutuellement, cela veut dire que nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Je ne suis pas venu pour moi. Je suis venu d'abord pour exhorter les autres. Il y a une dimension horizontale dans ces rassemblements. Cela veut dire que puisque je peux, j'ai le privilège de louer Dieu avec les chants que j'aime, avec ma culture chez moi, lorsque je viens le dimanche matin. Et lorsqu'il y a un chant peut-être que j'aime un peu moins, parce que ce n'est pas trop mon style. Je ne dis pas que c'est faux, hein, mais c'est juste que ce n'est pas trop mon style. En fait, plutôt que de me taire, je vais le chanter encore plus fort. Parce que ça va peut-être encourager mon frère ou ma sœur qui est à côté. Et si je comprends que je ne suis pas venu pour moi, alors je vais chanter fort. Je vais louer Dieu fort. Et je vais le faire pour les autres qui sont autour de moi. Parce que eux, peut-être, ça va les encourager. Et lorsque je prie au nom de l'Église. Je prie de nous. Parce que peut-être que cette sœur ou ce frère n'a pas le cœur ce matin à louer Dieu, à même ouvrir sa bouche. Mais il peut dire avec moi, amen. Je me joins à cette prière. Alors remercions le Seigneur pour ce privilège immense qu'il nous donne, chers amis. En Jésus-Christ, de pouvoir nous approcher de lui en tout temps, mais aussi de pouvoir bénéficier de ce moyen de grâce qu'il nous a donné, qu'est l'Église et que sont nos cultes. Et à lui soit toute la gloire. Amen. Je vais prier. Mais notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as accompli pour que nous puissions retrouver en Jésus-Christ notre vocation d'adorateur. Et Seigneur, ma prière déjà, c'est que tu nous aides ce matin à réaliser qu'être adorateur de notre Créateur est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Il n'y a pas de but plus grand, il n'y a pas de raison d'être plus grande que celle de te servir et de t'adorer. Alors Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à remplir fidèlement avec zèle et avec joie cette vocation que tu nous as donnée. Permets-nous Seigneur d'être des adorateurs du Dieu vivant, là où nous sommes et avec tout notre être. Et nous voulons te louer aussi, Seigneur, pour le privilège immense que tu nous as donné d'avoir une église et d'avoir ces cultes, ces rassemblements où nous pouvons être encouragés, renouvelés dans notre foi, où nous pouvons être aussi gardés. Et j'aimerais te prier, Seigneur, pour que nous ne négligions pas ces rassemblements. Pardonne-nous nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous pour nos négligences. Et donne-nous, Seigneur, la foi pour croire que c'est un moyen que tu as pourvu dans ta grâce et dans ton amour pour nous garder. Et aide-nous, Seigneur, à venir chaque dimanche matin avec la bonne attitude, avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, avec le corps lavé d'une eau pure. Donne-nous la motivation de venir avec le désir de nous encourager mutuellement, afin que le monde voie que nous t'appartenons, et afin que le monde comprenne et voie notre espérance. Et nous te faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.